Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Odyssée immigrée, nous recevons deux étudiants étrangers, réfugiés en France et inscrits au programme Français langues étrangères à la faculté de Nanterre. Christina est éthiopienne et Tariq est afghan. Ils sont venus nous parler de leur parcours, de leur pays, leurs attentes, leurs rêves. Nous sommes heureux de pouvoir les accueillir et leur donner la parole. Bonjour Christina et Tariq.
Bonjour.
Bienvenue à LYFM.
Merci. Merci.
Alors pour commencer, j'aimerais que vous vous présentiez en quelques mots. Christina par exemple.
Oui, bonjour. J'ai 33 ans, je suis éthiopienne. Ça fait 4 ans, je suis en France. Voilà.
Vous avez grandi où en Éthiopie ?
En fait, la capitale d'Éthiopie qui s'appelle Addis Ababa, outre le lieu qui s'appelle Piassa, dans la capitale cité d'Éthiopie.
Voilà. D'accord. Et vous avez des frères et sœurs ?
Oui, j'ai deux sœurs et une seule frère.
Qui sont là-bas ?
Oui, qui sont dans l'Éthiopie. Et en Éthiopie, j'étais un médecin généraliste. Et j'ai travaillé pour un an en Éthiopie.
Ah d'accord, vous avez déjà exercé...
Ouais,
d'accord.
Oui, oui.
Très bien. Et le milieu de vos parents, vous avez grandi... que font vos parents? Ils sont aussi dans la médecine?
En fait, non. Ma mère, elle travaille dans une banque. Et mon frère aussi, il travaille dans la finance.
D'accord, oui. Ok, très bien. Et vous, Tariq, dites-nous.
Je m'appelle Tariq, je suis afghan. Je suis arrivé en France en 2022. Avant, j'habitais en Afghanistan, je travaille et j'étudie en Afghanistan, oui.
Alors, vous étudiez quoi en Afghanistan?
J'ai obtenu mon baccalauréat en Afghanistan et après j'ai reçu une bourse de Turquie dans un domaine de relations internationales et j'ai obtenu mon bac plus 3 en Turquie et après je retourne en Afghanistan et je travaille dans une entreprise logistique.
D'accord.
Oui.
Ok, très bien. Alors, pour commencer, j'aurais voulu qu'on parle un petit peu de vos pays respectifs. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire, Christina, sur l'Éthiopie?
Oui, en fait...
Pour la présenter aux auditeurs.
D'accord. En fait, l'Éthiopie, il se trouve dans l'Est, en Afrique. Nous avons beaucoup de traditions et de cultures. En fait, l'Éthiopie, c'est un pays plus sociable avec tout le monde. Et le seul pays qui n'était pas colonisé par l'autre...
Oui, ça c'est important. Hein. Oh. C'est le seul pays d'Afrique à ne pas avoir été colonisé, je crois.
Oui. Oui, en fait, nous avons beaucoup de traditions et beaucoup de cultures. Et aussi, nous avons beaucoup d'histoire qui est très magnifique en Éthiopie. Voilà, nous avons beaucoup de peuples et d'ethnicités différents.
Oui, il y a une très grande diversité ethnique, ouais, c'est ça.
Oui, exactement. Ah oui.
Et religieuse aussi.
Ah oui, il y a les musulmans, les orthodoxes, les chrétiennes.
C'est à peu près équilibré entre les musulmans et les chrétiens ou il y a plus de chrétiens?
Il y a plus de chrétiens, mais il n'y a pas de...
60% de chrétiens et 40% de musulmans, quelque chose comme ça.
Exactement, c'est en fait 60%, oui, exactement. C'est ça.
D'accord. Oui. Et oui, vous avez souligné ce fait historique. On peut peut-être dire aussi que c'est un carrefour. Vos deux pays, ce sont en fait des carrefours. C'est intéressant. Hein, l'Afghanistan comme l'Éthiopie. Peut-être vous pouvez rappeler, Christina, quels sont les pays frontaliers de l'Éthiopie. C'est vraiment un carrefour qui a été un carrefour commercial de l'Antiquité, important aussi.
Ah oui. En fait, l'Éthiopie... il se trouve dans l'est en Afrique et à côté de l'Éthiopie il y a le Somalie, le Kenya, le Djibouti et l'Érythrée. Il se trouve juste à côté de notre pays et c'est en fait nous avons partagé beaucoup de cultures et de traditions avec cet pays Et voilà, c'est
bien.
Grand, oui.
Alors, Tariq, dites-nous un peu en quoi l'Afghanistan est un carrefour, elle aussi.
D'accord. Afghanistan, il est situé dans le sud-est de l'Asie. Mm-hmm. Et Afghanistan est comme Christina dit, c'est un peu aussi la même chose. C'est un peu très divers. Il y a beaucoup de cultures différentes, beaucoup de différentes ethnicités aussi.
Les Pashtuns, les Tadjiks,
les
Turkmènes,
les Hazaras, les Kazakhs, les Balouches. Il y a plus d'ethnicités et ils ont habité, ils ont vécu dans la même géographie depuis beaucoup de temps, depuis, je pense, 5000 années. Mm-hmm. Parce que dans notre histoire, ça a commencé depuis 5000 années dans le sud-est de l'Asie. Et j'ai dit, Afghanistan, c'est à côté de dans la frontière, il y a Iran, Hindistan, Pakistan, Russe, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan. Il y a plus pays et on peut partager tous leur pays, la culture de leur pays aussi, mm-hmm. En Afghanistan.
C'est ouais. Ça. L'Afghanistan est au carrefour en fait des mondes indiens et perses en fait, iraniens. Hein, c'est les deux grosses cultures entre lesquelles il se trouve. D'ailleurs, on entendra tout à l'heure la pause musicale que vous nous avez proposée. On entend bien à la fois cette influence indienne, pakistanaise et iranienne.
En histoire, quand on parlait depuis Alexandre de Grette, ça a commencé.
Alexandre le Grand,
le
oui,
Grand.
Vous avez raison.
Et depuis Alexandre de Grande, et après, il y a beaucoup de civilisations qui sont arrivées en Afghanistan. Et Afghanistan était une capitale de beaucoup de civilisations. Et comme ça...
Et aussi, on peut le dire, un point important sur la route de la soie.
Oui, oui. Hein? C'est un peu très important parce que il y a beaucoup de choses. En Afghanistan, l'histoire, la culture, la musique, ça aussi, comme le même avec le Hindistan, l'Iran et le Russe et le Pakistan aussi. Mm-hmm. Oui, oui. Nous avons c'est comme ça, oui.
D'accord. Alors, Christina, est-ce qu'on peut maintenant évoquer l'histoire récente de l'Éthiopie, peut-être, pour un petit peu situer ce qui se passe actuellement dans vos pays respectifs, Christina?
Oui, en fait, il y a toujours le problème de politique en Éthiopie à cause de beaucoup d'ethnicités. Et maintenant, il y a quelques problèmes avec l'ethnicité, il y a la guerre et il y a beaucoup de personnes qui souffrent les conséquences de cette politique.
Oui, il y a eu la guerre du Tigré au nord de l'Éthiopie,
exactement,
hein, c'est ça.
C'est le Tigré et l'Amara aussi, il y a la guerre entre les deux.
Ah, oui.
Et en fait,
donc ce sont des régions, il faut expliquer, hein, ce n'est pas des pays différents. Le Tigré, c'est une région au nord de l'Éthiopie,
oui.
Avec une ethnie particulière qui est en conflit avec le gouvernement.
En fait, avant...
Avec le Premier ministre, qui s'appelle...
Dr Abiy Ahmed, oui, c'est ça le problème. Oui.
Et ça fait 2 ans que ça dure.
Oui, il y a beaucoup de temps, ça fait beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent les conséquences. Et on ne peut pas trouver la solution, ça fait plus de 10 ans.
Mmh. Vous êtes dans une impasse politique en Éthiopie, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ok. Et vous alors, Tariq, l'Afghanistan aujourd'hui?
L'Afghanistan aujourd'hui...
C'est bien compliqué là aussi.
Depuis 1969, la guerre commençait en Afghanistan... avec le communisme, quand il y a un coup d'État en Afghanistan, et dans cette date. Avant, Ça a été très bien pris.
Alors, ça a été peut-être d'abord les rivalités coloniales entre les Russes et les Anglais. Ça, c'était un peu un pays tampon, mais qui n'a jamais été colonisé.
Oui, ça a été tampon, mais ça a été en 1900.
C'est au début du siècle.
Non, 1979, quand le coup d'État, il y a un coup d'État. Avec le communisme et ça a commencé. Après, la guerre a commencé jusqu'à aujourd'hui.
Alors, l'invasion de la Russie,
en
79.
79, oui. Après, il y a plusieurs autres coups d'État en Afghanistan et il y a beaucoup de problèmes de politique entre l'ethnicité, entre les gens, entre les idéologies en Afghanistan. Mm-hmm. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, les fils afghans ne permettent pas pour les écoles.
C'est-à-dire que depuis 2 ans, les talibans sont revenus au pouvoir.
Exactement.
Depuis 2021.
Oui, c'est une grande stratégie, je pense. Parce que les fils aussi, ils ont resté dans la maison. Et ils n'ont pas permis pour l'école, pour l'université, mm-hmm. pour le travail. C'est triste mm-hmm. pour aujourd'hui nous vivons dans 2023 mais on parle les choses
on est retourné au Moyen-Âge quelque
exactement,
part
mm-hmm. exactement mm-hmm. et c'est triste
oui. J'imagine et j'ai lu récemment que en fait les femmes n'ont même plus le droit de travailler pour l'ONU
aujourd'hui
aujourd'hui. J'ai vu qu'elles sont interdites par les talibans de travailler dans les institutions onusiennes.
Exactement. Par exemple...
Qui sont pourtant des institutions internationales.
J'ai vu, par exemple, une personne qui est professeure de médecine en université, mais elle est interdite dans une université. Mm-hmm. Elle n'est pas faire le travail. C'est très, très... C'est une grande stratégie. Pour les Afghans.
J'imagine.
Oui.
Alors, je vous avais donc demandé à chacun d'amener de la musique pour nous faire entendre un petit peu justement cette culture musicale de vos pays. On va commencer donc par une première pause éthiopienne. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que ça raconte après qu'on l'ait écouté, Christina?
Oui. En fait, cette musique prend quelques petites histoires tristes dans l'Éthiopie qui a déjà passé et c'est comme un souvenir pour l'Éthiopie.
Mmh. Quel genre d'histoire ?
En fait, il y a beaucoup de guerres et aussi il y a beaucoup de personnes qui ont déjà mort pour... trouver quelque chose de mieux. En fait, cette musique parle de cette chose qui parle de choses très difficiles qui a passé dans l'Éthiopie.
D'accord, on écoute.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Thank you.
Nous sommes toujours sur Aligre FM dans Odyssée immigrée. Je suis ce matin avec deux étudiants étrangers inscrits au programme français langues étrangères à la faculté de Nanterre, Christina éthiopienne et Tariq afghan. Donc nous poursuivons notre périple un petit peu dans vos cultures. Christina, j'avais envie de vous demander aussi ce qui faisait votre fierté, la fierté d'être éthiopienne.
Oui, en fait, l'Éthiopie, c'est un pays qui adore tout le monde et qui ouvre la main pour tout le monde, qui est plus sociable et qui accepte tout le monde aussi sans limite. Et en fait, l'Éthiopie, c'est un pays qui est très connu pour la religion chrétienne et il y a beaucoup de historique religieuse dans l'Éthiopie et c'est le pays de centre pour le christianisme
en Afrique.
En Afrique et aussi il y a plusieurs places pour les touristes, pour l'histoire qui est aussi avant le Jésus-Christ. Il y a plus de monuments historiques et aussi beaucoup de choses pour les touristes pour trouver un peu.
Alors moi, ce à quoi je pense tout de suite quand j'ai un petit peu fait des recherches sur votre pays, je les connaissais, mais je ne suis jamais malheureusement allée en Éthiopie pour les voir, mais je crois que j'irai un jour parce que c'est impressionnant. Ce sont ces églises enterrées, construites dans la roche, au lieu que ça soit surélevé, les premiers chrétiens éthiopiens, un des rois, a fait construire des églises en les faisant creuser dans la roche, notamment pour les protéger des attaques musulmanes.
Exactement, c'est ça. En fait, oui. C'est en fait, ils ont créé cette église dans une seule pierre.
Oui, c'est ça.
Et c'est aussi la seule église très historique. C'est comme monument, en fait, typique.
Et les Éthiopiens y vont, enfin, je veux dire, même ceux qui ne sont pas forcément chrétiens, c'est quelque chose dont on est fier, en fait. On va voir.
Et qui est très protégé par l'État aussi.
Aussi, j'imagine,
oui. Oui, bien sûr.
Bien sûr. Tariq.
Oui. Je pense qu'en Afghanistan, il y a plusieurs ethnicités. Et la culture, c'est très diverse. Et tous les gens vivront ensemble. Et pour moi, je trouve ça très, très bon pour moi.
Il y avait une tolérance, toutes ces identités.
Entre tous les pays, c'est aussi un pays très touristique, et pas comme il y a beaucoup de places touristiques à cause de guerre. Nous n'avons pas beaucoup de touristes, mais C'est très naturel. Il y a beaucoup de montagnes. 70 personnes d'Afghanistan, c'est montagne.
70%, vous
70
dire, ouais.
Personnes, oui, c'est montagne.
Et l'Himalaya, en fait, c'est ça, la chaîne de l'Himalaya.
Exactement,
c'est très, très
exactement.
Beau, ouais.
C'est...
Oui. C'est des paysages incroyables.
Oui, ouais. C'est incroyable, ouais. Mais à cause de guerre, il n'y a pas beaucoup de touristes. Les gens ne peuvent pas te visiter le pays. Mais j'espère qu'un jour, toutes les gens vont arriver en Afghanistan pour visiter l'Afghanistan, l'histoire, la nature et la culture, tout sûr. Tout
bien sûr. Sûr. C'est bien ça. Sûr, on espère aussi. Alors parlons maintenant de vos parcours. Vous m'avez un petit peu dit, Christina, tout à l'heure, donc, que vous aviez exercé déjà un métier en Éthiopie, donc en tant que médecin. Dans quel cadre exactement? Dans un hôpital? Vous aviez votre cabinet? Comment ça se passe?
En fait, oui, je travaille dans un hôpital qui s'appelle Zoditou Commémoral Hôpital.
Ouais.
C'est un peu un hôpital public. Et oui, j'ai travaillé pour un an, mais après, je dois sortir mon pays à cause de raisons personnelles. Et oui, quand j'arrive en France, c'était le temps pour la pandémie, il a déjà commencé.
Ah, vous êtes arrivée en 2020?
Oui, oui, en commençant le 2020, et tout s'est bloqué. Voilà, c'est un peu triste.
Alors, pourquoi la France, en fait?
Pourquoi
avoir choisi de venir ici?
Honnêtement, je n'ai pas choisi seulement France. J'ai demandé d'asile pour plus de pays. Et en fait, j'ai eu la chance parce que la France, il m'a donné l'aide avec cette difficulté. Et je suis toujours... Je vous remercie, la France. Oui, c'est en fait, j'ai demandé plus de pays, mais c'est seulement France qui m'a donné leur aide.
D'accord. Oui. Sur les raisons personnelles dont vous parlez, c'est délicat de vous
en dire plus. Oui, en fait, c'est déjà... Oui, c'est la raison politique, en fait. Oui. On a déjà touché cet sujet, mais oui, c'est... En fait, la nouvelle ne couvre pas ce problème. Il y a beaucoup de difficultés en Éthiopie.
Vous avez reçu des menaces, c'est ça?
Ah oui, exactement. Mm-hmm. Et j'ai perdu mon frère, mon père. Et après ça, je dois quitter mon pays.
Oui. Donc c'était assez précipité.
Oui, bien sûr. Voilà. Je dois quitter parce que ça devient un peu difficile, même si je travaille dans l'hôpital. Ils ont demandé pourquoi tu aides quelques personnes comme ça. Et c'est un peu difficile pour moi pour travailler aussi dans l'hôpital parce qu'il y a des politiques dans l'hôpital quand même. Ils choisissent les patients. Je ne peux pas traiter quelques patients, voilà. Et voilà.
Ah oui, les patients sont sélectionnés en fonction
exactement,
de leur...
voilà. Et c'est un peu.
De leur appartenance politique, c'est ça?
Oui, 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 wow. C'est ça. Et
donc c'était trop compliqué pour vous.
Oui, exact.
Il fallait partir.
Oui.
D'accord.
Oui, quand j'arrive en France, oui, je trouve c'est un peu bizarre parce que c'est la pandémie. Mais quand même, j'ai commencé mon étude de langue française parce que j'ai besoin d'intégrer dans la société et aussi de trouver quelque chose pour travailler, commencer ma vie. Oui, mais avec le COVID, c'était un peu difficile. Mais maintenant, j'ai commencé mon étude et j'ai trouvé beaucoup d'associations qui aident plus, en fait. Et en Éthiopie, nous n'avons jamais parlé la langue française. Et c'est ici que j'ai commencé.
Oui, c'est pas simple.
Oui, exactement.
Et, bravo.
Oui, grâce à tout le monde, en fait, je suis un peu améliorée. Et oui, et j'ai besoin, en fait, un peu continuer mon mon étude. Et après, peut-être, je peux aussi trouver l'équivalence pour rejoindre le secteur médical et aussi travailler, aider les gens de France qui m'ont donné beaucoup d'aide. Donc, et travailler, et je suis courageuse.
J'en doute pas.
Oui.
J'en doute pas.
Voilà, c'est ça mon projet loin.
Ouais. Vous êtes en première année ou en deuxième année du diplôme universitaire français langues étrangères à Nanterre?
Oui, en fait, j'ai fait mon diplôme de B1, le diplôme de B1 avant, à Paris 8 Université. Je suis en train de faire le B2 en Paris Nanterre, en
D'accord.
fait. Oui.
Ok. Donc, ça, c'est encore une année d'études.
Oui, exactement. Mm-hmm.
D'accord. Tariq, à vous. Dites-nous tout.
Ah, ok. J'ai travaillé avec une entreprise logistique en Afghanistan. Et après, quand la guerre commençait, en 2021, et après, j'ai quitté mon pays à cause de guerre.
Alors attendez, revenons à... Vous m'avez parlé tout à l'heure de votre bac, vous avez eu une bourse en Turquie,
oui.
Vous avez fait 3 ans d'études
relations internationales. Oui, oui.
Et quand vous rentrez en Afghanistan, vous exercez un métier, c'est ça?
Oui, j'exerce mes métiers, je travaille avec une entreprise logistique.
D'accord, donc rien à voir avec les relations internationales.
Ah non, mm-hmm. pour 2 ans. Et après... quand la guerre commençait en Afghanistan à cause de problèmes personnels, j'ai quitté mon pays.
En 2021, c'est ça?
Oui,
vous parlez des talibans qui arrivent au pouvoir?
Oui, oui.
D'accord.
Oui, oui.
Vous avez dû quitter à cause de ça?
Oui, exactement.
Parce que vous pensiez que c'était invivable de vivre sous un régime aussi autoritaire?
Oui, exactement. Exactement. Et après, quand je suis arrivé en France... Je ne sais pas, mais depuis longtemps, France, c'est un seul pays qui aide beaucoup les étudiantes afghans et les Afghans. Et nous avons un institut français en Kaboul. Nous partageons beaucoup des choses.
Oui, nous avons des liens entre les deux pays qui sont anciens, c'est ça?
Exactement. Et c'est un seul pays qui aide les réfugiés afghans. Après, je trouve que si je suis allé en France, je vais commencer mes études encore et je vais travailler dans un secteur humanitaire. Et c'est ça que la première fois, quand je suis arrivé, j'ai commencé la langue française. Et maintenant, j'étudie au niveau B2 à Paris-Nanterre. Et après, quand j'ai fini, je vais travailler avec une association humanitaire parce que je vais aider les gens français, les gens étrangers, c'est pas grave, mais je vais aider parce que j'ai les compétences de langue, je peux parler 5 langues.
Lesquelles? 5 langues, c'est énorme.
Oui, c'est l'anglais, le turc, le hindi, l'inde, le persan, le pashto et le français.
Ah
c'est 6 langues.
Ouais.
Ok, mais peut-être je vais utiliser mes compétences pour aider les gens dans un secteur humanitaire.
D'accord.
Oui.
Vous êtes venus tous les deux en avion? Directement en France? Vous êtes passé par différents pays?
Par différents pays.
Dites quoi?
Iran, Turc, et après Grec, Italien, et après Français. Oui.
D'accord.
Oui. Oui.
Et vous, Christina?
En fait, moi, je viens direct.
Direct, vous avez pu avoir un avion. D'accord. Exactement. Vous avez eu un visa, donc depuis l'Éthiopie.
Oui.
Alors, on va entendre justement la pause musicale que vous nous avez amenée, Tariq. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît?
C'est un instrument, on dit ça, le nom de cet instrument c'est rabab.
Ouais.
Rabab c'est un instrument afghan. On utilise ça avec le poète, avec le poème, poésie, parce que avec le poète on dit beaucoup de choses. Par exemple, pour l'amour, par exemple, pour le soufisme, je ne sais pas que vous voulez, pour le critique société, pour le tabou, et on utilise le rabab avec le poésie.
Avec la poésie.
Avec la poésie, on utilise beaucoup, et c'est ça. Et,
très bien, alors on va entendre cet instrument.
Ok.
Alors Tariq, on entend bien cette influence de l'Inde
oui, exactement.
Et aussi de l'Iran.
Oui, on utilise beaucoup d'instruments ensemble avec les Indes, avec l'Iran. Par exemple, on utilise le santur, on utilise le sitar.
La sitar,
sitar, aussi en Afghanistan.
C'est ça, il y a des instruments communs entre les deux pays.
Des instruments communs,
Très bien. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on en vienne à parler un petit peu de votre statut. Comment vous nous avez dit que vous étiez arrivée en France. Vous, Christina, depuis 4 ans. Ouais. Vous, Tariq, depuis un an, c'est ça.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des informations sur comment ça s'est passé pour, en tant que réfugié, quel statut vous avez actuellement? Est-ce que ça a été compliqué avec la préfecture, etc. Peut-on parler de cela maintenant, Christina?
Oui, quand j'arrive en France en 2020, c'était le temps de pandémie et donc tout s'est fermé. La préfecture et leur place étaient fermées.
Et vous êtes arrivée avec un visa, vous m'avez dit tout à l'heure.
Oui, en fait, j'arrive en France avec le visa, mais le truc, c'est pour demander l'asile. Oui, exactement.
Asile politique.
Oui.
Vous aviez donc un visa de quoi? De tourisme?
Non, j'ai un visa d'étudiant.
Ah, très bien.
Oui, exactement.
Bah oui, bien sûr.
Et donc, c'était un peu difficile parce que tout s'est bloqué et c'est fermé. Et les autres difficultés, c'était la langue. Et pour trouver quelqu'un qui peut expliquer qu'est-ce qui se passe et comment je peux trouver la solution. Voilà, j'ai rencontré quelques gens dans les rues. Je demande et je vais expliquer tout.
Parce que vous êtes arrivée, vous ne connaissiez personne, hein, c'est ça?
Oui, je reste seule aussi. C'est un peu difficile. Parce qu'ici en France, je connais quelques gens qui parlent anglais, mais tout le monde a besoin pour parler la langue française. Mais c'est pas difficile pour moi parce que dans mon pays d'origine, cette langue n'existe pas. Mais à cause de ça, j'ai commencé petit à petit pour trouver quelques mots, pour donner la solution. Donc,
on vous a dit d'aller à l'OFPRA pour faire votre demande d'asile?
Oui, je demande quelqu'un qui est une personne âgée qui m'a aidé beaucoup, en fait. Mm-hmm. Elle a donné toutes les informations, elle donne l'adresse et tout, et pour ça, je dois aller là-bas et j'ai trouvé l'assistante sociale. Et après, petit à petit, ça commence
votre parcours pour la demande.
Exactement.
De carte de séjour, en fait,
exactement,
c'est ça.
Exactement, oui. Et après, j'ai demandé asile. Je n'ai pas de logement aussi, grâce à mon assistante sociale qui m'a aidé beaucoup. J'ai trouvé le logement et j'attendais pour
l'obtention de la carte.
Oui, exactement.
Ouais, la réponse de l'OFPRA. Et oui. Vous avez attendu combien de temps alors, entre votre arrivée et la réception de la carte de séjour?
Oui, en fait, c'est un peu plus parce que ça prend presque un an et 6 mois, mm-hmm. à peu près, mm-hmm. pour moi. Et c'était difficile, mais après, j'ai reçu la bonne nouvelle, j'ai reçu la protection.
On sait que c'est le parcours du combattant, hein,
oui,
c'est
exactement.
Sûr. Exactement. Et pour vous, Tariq, alors, comment ça s'est passé?
Pour moi, je pense, quand j'ai parlé avec autre personne, c'est un peu différent parce que c'est pour moi, c'est passé très bien. Parce que là-bas, en Afghanistan, j'ai eu une vie très difficile. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai vu que c'est pas difficile. Par exemple, pour moi, c'était pas difficile. J'ai attendu pour un an pour reçu la carte de séjour.
Mais alors, attendez, juste pour savoir un peu comment ça s'est passé par rapport à Christina, vous arrivez, vous connaissez quelqu'un en France ou à quelle porte vous toquez quand vous arrivez?
Non. Quand
vous n'aviez pas de visa.
Il y a beaucoup des Afghans que
vous avez vite rencontré des Afghans.
Oui, j'ai rencontré vite avec les Afghans et j'ai posé les questions. Comment je fais ça. Et après, il m'a aidé beaucoup. J'ai demandé l'asile. Et après, j'ai reçu le statut de réfugié après 5 mois. Et quand j'ai reçu, et après, dans ce moment, j'ai aussi un logement social et j'ai aussi une courte langue française. Mm-hmm. Dans ce moment, oui. Et pour le niveau A1, et après j'ai fini le niveau A, et après j'ai inscrit à Pôle emploi et j'ai demandé pour le niveau A2 et B1. Mm-hmm. Et grâce à Pôle emploi, ils ont m'aidé pour la langue française. Ils donnaient une courte langue française fluide pour A2 B1, et après j'ai fini la langue française jusqu'à B1.
Ah oui, donc c'est par
exactement.
Le Pôle emploi, c'est étrange, pas vous, Christina?
En fait, Aussi, je suis...
Ah, vous aussi, c'était par Pôle emploi.
Oui, par Pôle emploi.
D'accord, okay,
oui.
Je ne savais pas.
Oui, que, je pense qu'en France...
Si... Je pensais que ça serait l'OFPRA qui vous mènerait vers les cours de français.
Oui.
Non, c'est Pôle emploi.
Non, l'OFPRA aussi m'a aidé pour la première fois, pour le niveau A1. Et moi, je pense qu'en France, il y a beaucoup d'opportunités. Juste une chose que l'étranger, quand ils ont arrivé ici, ça, le problème, c'est qu'ils ne posaient pas beaucoup de questions. Ils ne demandent pas l'aide. Je pense comme ça. Par exemple, les gens qui arrivent ici, juste, ils ont, oh, ok, on va rester, on va attendre, ok, comme ça. Ils ont utilisé beaucoup de temps pour faire rien. Moi, quand je suis...
C'est-à-dire que quand on est sans papier, on ne peut pas faire grand-chose. On est bloqué, on n'a pas le droit de travailler.
Exactement.
C'est compliqué.
Oui, sans papier, oui. Mais je ne sais pas beaucoup de personnes qui ont avoir papier, mais ils ne parlent pas la langue française, ils ne font pas faire le travail.
Très important d'avoir la maîtrise de la langue.
Oui,
ici, surtout,
si, par exemple, je vais donner un exemple. Quand je suis arrivé en France, une fois j'étais malade et j'étais en hôpital. Et après, le médecin, elle m'a parlé. Elle dit que, ok, vous arrivez ici à quel pays, par exemple. J'ai dit, ok, Afghanistan. Oh, ok. Après, j'ai posé, est-ce que vous savez quelqu'un qui donnait en gratuit école de français?
Ah, ouais.
Oui, je sais, ok. Oh, attends. Et elle appelait une personne et après, la personne m'a aidé. Par exemple,
oui. Vous voulez dire qu'en fait, vous avez pris des initiatives.
Exactement.
Et que c'est ça qu'il faut faire quand
Exactement.
On est un étranger qui arrive en France.
Exactement.
Et qu'il ne faut pas hésiter à toquer aux portes, quoi, et à demander de l'aide.
Nous ne pouvons pas hésiter pour poser les questions. Nous ne sommes pas hésiter pour demander les aides. Mm-hmm. Je pense qu'il y a aide, mais le demande, c'est important. Oui.
C'est vrai que c'est important.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Christina, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, en fait, même si nous ne pouvons pas parler la langue française, si on reste à la maison, on reste à la maison tout le temps. Et donc, on doit être courageuse et on doit sortir, trouver les gens, parler deux mots par jour.
Absolument,
quand même.
Vous avez bien raison.
Oui,
il ne faut pas rester chez soi.
Exactement. Et il y a beaucoup de personnes gentilles, en fait. Si on peut essayer, il va guider et on peut trouver la solution aussi.
Il y a beaucoup d'associations en France qui aident les personnes étrangères.
Beaucoup
on a dû vous en parler, non?
Oui, en fait. Après l'OFPRA, j'ai été inscrite dans une association qui s'appelle Pierre Claver. Il se trouve dans le 11e arrondissement à Paris. C'est le professeur qui m'a donné beaucoup d'aide dans cette association. Mm-hmm. Oui, il existe plus d'associations qui sont là pour tout le monde, mm-hmm. pour intégrer, pour associer et pour trouver le chemin. Mm-hmm.
Vous avez donc été aidé, vous aussi. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on parle de votre perception de la France quand vous êtes arrivé et aujourd'hui. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé, par exemple, Tariq?
Pour moi, je pense non, ça ne change pas quelque chose. Par exemple, avant que j'arrive ici, je sais beaucoup de choses. Pour France, parce que dans notre histoire, le livre histoire, on parle beaucoup de choses dans France, la révolution, l'histoire de France, et la culture, et la musique, et aussi l'écrivain populaire de français. Mmh. Et pour moi, ça n'a pas changé beaucoup de choses, mais le premier jour quand je suis arrivé ici, je ne sais pas la langue et je ne sais pas beaucoup de choses, par exemple. Et après, aujourd'hui, je sais beaucoup de choses en France. Et c'est j'aime beaucoup parce que je sens que je suis intégré un peu dans la société.
Vous avez l'impression d'avoir un peu compris cette société française.
Exactement, exactement. Ça, j'aimerais ça parce que avant que le premier jour quand je suis arrivé ici, ça a été difficile parce que je connais beaucoup de choses, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je veux, mais je ne peux pas. Ça, c'est un peu difficile. Mais aujourd'hui, ok. Peut-être avec le temps, par exemple, 2 ans, après 3 ans, je vais essayer beaucoup de choses. Je vais connaître beaucoup de choses, la culture, la musique, beaucoup de choses en France, oui.
Et vous, Christina?
Ah oui.
Quelle image vous aviez de la France avant de venir et quelle est-elle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des changements? Dites-moi.
Oui,
est-ce que vous aviez des attentes qui ont été déçues ou au contraire satisfaites?
Oui, en fait, avant, j'imagine la France, c'est un peu plus grand, avec beaucoup de culture. Et voilà, oui, c'est vrai. Je trouve la France est un peu plus grand et un peu beaucoup de culture. Mais j'étais un peu en difficulté parce que je ne parle pas la langue. Et c'est pour cette raison, moi-même, j'ai été un peu... J'ai un peu peur parce que si je ne peux pas parler, comment je peux intégrer? Mais petit à petit, ça me réveille. J'ai réveillé.
Mais oui, bien sûr.
Et j'ai intégré avec les gens.
Et ce programme d'études est fabuleux aussi pour vous rencontrer d'autres étudiants, d'autres personnes dans votre situation, des échanges. C'est très important, pas qu'avec des Français, mais aussi avec d'autres étrangers.
Oui.
Ça rassure, hein, j'imagine.
Oui.
C'est intéressant parce que vous rencontrez d'autres cultures aussi.
Exactement.
Parce que Paris, c'est aussi une capitale culturelle, un brassage, un peu comme vos pays, un brassage culturel. Il y a beaucoup de brassage ici.
Exactement, c'est ça. Et maintenant, oui, j'adore Paris et j'ai besoin de faire quelque chose mieux aussi avec ma vie pour participer et intégrer dans la société, pas seulement étudier. J'ai besoin de trouver un travail.
C'est intéressant parce que vous avez en commun cette volonté d'aider d'autres personnes, que ce soit des Français ou des étrangers, hein, vous avez ce point commun tous les deux, d'avoir envie de trouver un travail, vous dans l'humanitaire, vous peut-être dans la médecine, mais toujours dans cette question de l'aide de l'autre. Tendre la main, comme on vous a tendu la main peut-être aussi. C'est ça,
Oui, exactement.
J'ai bien compris. Alors, Christina, vous m'avez parlé d'un site que vous avez créé, dont vous êtes à l'origine, et qui concerne la défense de l'environnement. Dites-nous un petit peu comment il s'intitule et racontez-nous un peu cette aventure.
Oui, le site internet, il s'appelle IA. IA, ça veut dire Ethiopian Environmental Awareness en anglais. En français, ça veut dire... c'est seulement à sensibiliser les gens.
Sensibiliser,
sensibiliser
la jeunesse, la jeunesse éthiopienne.
Oui, la jeunesse éthiopienne, quand même, toutes les gens, en fait, parce que ça concerne tout le monde.
Bien sûr.
Pour protéger notre environnement en général et pour changer notre... environnement et protéger notre vie et notre société en général et pour prendre la décision aussi pour dire non pour sacs plastiques, pour les poubelles, pour la pollution, déforestation et aussi prendre la décision pour être humain et trouver la solution tout le temps. Et créer la génération qui est responsable et qui est sensibilisée aussi pour protéger leur environnement quand même.
Oui, bien sûr. Alors, ça m'amène à parler d'un intéressant documentaire que j'ai pu voir récemment en faisant des recherches sur votre pays. Il y a une entreprise et un investisseur, le plus grand investisseur privé, qui s'appelle Mohamed Al-Amoudi, je crois, hein, c'est ça, et qui a développé notamment le secteur agricole et créé des rizières, une exploitation agricole énorme dans un des parcs naturels à l'ouest, à Gambela, c'est ça ?
Oui, exactement, c'est ça, oui.
Et c'est très intéressant ce documentaire parce que ça montre un petit peu comment le directeur du parc essaie de défendre, parce que c'était un lieu très isolé ou justement préservé de l'occidentalisation, de la modernisation. Et là, les bulldozers arrivent, on déforeste, on déplace des tribus indigènes. Enfin voilà, il y a des problèmes très cruciaux en Éthiopie concernant la question de l'environnement.
Oui, il y a aussi toujours la question de...
Et les investisseurs étrangers qui ont pris l'Éthiopie comme un terrain d'investissement, mais aussi avec ses conséquences sur l'écologie.
Oui, exactement. C'est pour cette raison, on a créé cette organisation. Mm-hmm. Une non-profit organisation pour créer la sensibilité qu'on a discutée.